Apéro spécial Détroit Orlando.
Détroit Orlando. Bonne petite série.
On enchaîne. Un
Euh,
partout?
ouais, encore une série un partout. J'étais en train de calculer dans ma tête. Finalement, il n'y a que les Cavs et le Thunder qui mènent 2-0. Toutes les autres séries
Les
sont à 1-1.
Lakers.
Ah non, il y a les Lakers aussi. Il y a 5 séries à
Les
1.
Lakers.
Ouais, il y a 5 séries à 1.
On oublie, hein.
Les favoris. Les favoris mènent 2-0. Hein. Voilà, les autres, ils sont à la lutte, ils sont à la bataille.
C'est vrai qu'on avait démarré le week-end en disant ah, t'es à domicile, tu gères, hormis Détroit, quoi. On avait démarré avec 7 victoires hein, sur
Les
8
matchs
matchs
1, ouais.
à domicile. Et
Match
puis,
2, ça s'est compliqué.
ça y est, les playoffs sont officiellement lancés. Vous connaissez la phrase. Une série démarre lorsque une équipe à domicile perd. Ça y est.
Il y a 5 séries qui ont démarré.
Ah ouais, exactement.
Dont la Pistons Magic.
Dans la Pistons Magic, dont on va parler maintenant et faire un peu un focus, parce que certes, c'est peut-être pas celle, on va pas se mentir, sur le premier tour, qui a hypé tant de gens que ça. Pour autant, il y a
Non,
plein de choses à devoir discuter.
c'est clair que c'est peut-être pas sur le papier la plus excitante et tout, mais en fait, du coup, elle devient tout de suite très intéressante avec la victoire du Magic lors du Game 1,
Yep.
où on a quand même vu un Orlando Magic, genre, qui a bien attaqué de manière assez variée.
Qui a profité de la très grosse concentration des Pistons sur le game.
Les Pistons, pas trop dedans en défense, pas trop dedans dans l'agressivité, la dureté avec laquelle à laquelle ils nous ont habitués lors de la régulière. Malgré un Desmond Bane qui a pas très bien shooté du tout, et
Ah,
c'est un euphémisme. Hein.
Au game 1.
Hein?
Il était malade. Non,
ouais,
au game
il
1.
était malade au game 1 et je peux vous dire qu'il
Il
était
était
malade
malade
au
au
game
game
2
2.
aussi. Hein.
Ouais, tout à fait.
On va pas se mentir.
Il a une sacrée chiasse la semaine des bons.
La vache, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et malgré ce Desmond Bane faiblard, le Magic avait réussi à mettre
112.
112 points. Donc c'est quand même beaucoup. La défense de Détroit, c'est quand même une des toutes bonnes défenses de cette saison. Et le Magic, c'est pas une des toutes bonnes attaques.
Ah, tout à fait.
Et ils les ont surpris. En plus, ils ont plutôt bien défendu le Magic. Ils ont mis de
Oui.
l'intensité. Ils ont laissé un peu Cade scorer et tout. Mais ils l'ont un peu coupé. Ou ils ont coupé ses partenaires de Cade. Ou ils ont coupé Cade de ses partenaires. Ça,
C'est
c'est vous qui
vous qui
voyez. Mais
choisirez.
c'était ça l'idée. Avec leurs grands joueurs athlétiques capables de switcher et tout. Le Magic peut être très chiant en défense.
Tout à fait.
Leur saison régulière n'était pas terrible en défense. Mais on sait qu'ils ont les capacités. Donc. J'avoue, moi j'avais de l'inquiétude après le Game 1 pour les Pistons. J'avoue.
C'est un classique d'Orlando.
C'est
bonjour.
vrai.
On démarre les playoffs avec un gros Game 1. DJ Augustin contre Toronto. Par le passé aussi, on les a même vus battre les Bucks, si je dis pas de bêtises, après Milwaukee était champion. Ou c'était dans la bulle l'année précédente avec Evan Fournier et Nikola Vucevic. C'est un classique du Magic. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu l'info, je ne sais pas si tu as vu ce que Jamal Mosley a fait avant ce match 1. Je sais pas si tu as vu, là, ça a été relayé un peu sur les réseaux
Non.
sociaux. Eh ben, je vous le dis très simple pour ceux qui n'ont pas l'info. Alors, les fans du Magic
Non,
l'ont vu,
j'ai
mais
pas vu.
ils ont donc battu nos amis les Hornets assez largement au Play-in Tournament,
Oui.
Orlando.
Ah oui,
Et après,
ils
il y avait
ont.
le déplacement à Détroit. Et lorsqu'il a fallu motiver ses joueurs, parce qu'on sait, hein, Jamal Mosley, avec le groupe, il y a plutôt une odeur de merci, au revoir là dans quelques semaines, que de les gars, Kumbaya, on est tous ensemble. Apparemment, Jamal Mosley, dans le cadre de sa préparation, il a ressorti toutes les mixtapes en NCAA de chaque joueur de l'équipe, Paolo Banchero, Desmond Bane, etc., pour leur dire, souvenez-vous quel type de joueur vous êtes capable d'être. Parce que la plupart des mecs,
Pas mal.
attention, Franz Wagner top 10 de draft,
Banchero numéro 1.
Banchero numéro 1, Wendell Carter ça joue bien aussi, James Suggs c'est top 5.
Ouais.
Il n'y a que Desmond Bane qui est un late
Late first round
premier
par
tour de
Memphis.
draft, tout à fait. T'avais des gars comme Tristan Da Silva ou Anthony Black qui sont aussi, hein, Anthony Black des assez hauts pics. Et donc, ces ressorties-là, c'était bien joué de sa part parce qu'en fait, il a voulu remontrer à son groupe que, certes, les gars, on est un petit peu. C'est difficile collectivement, Orlando,
Ouais,
sur
ouais,
la
ouais.
fin de saison. Mais quand vous êtes tous sur votre A-game et que vous êtes au diapason, vous pouvez même aller battre Détroit. Et c'est ce qui s'est passé sur le
Ouais.
Game 1, puisque dans l'attitude, dès le premier quart-temps, on a vu du très gros Jalen Suggs, du bon Paolo Banchero. Ça a motivé Wendell Carter, Franz Wagner et compagnie. Donc c'est vrai que sur le Game 1, on avait un Orlando qui avait très très bien joué et qui, comme tu le soulignais très bien là, avait décidé de laisser Cade Cunningham faire son travail.
En lui mettant des joueurs, mais en tout cas, l'objectif numéro un était d'éviter qu'il puisse trop distribuer à des copains ouverts et tout, bien faire chier Jalen Duren sur le short roll et tout pour empêcher Jalen Duren d'avoir un impact trop grand en attaque.
L'impact de Jalen Duren au game 1, fantomatique.
C'est quoi, même au game 2? Au game 2, en attaque, c'est difficile pour Jalen Duren. Il s'est réveillé en défense, mais c'est difficile en attaque pour
lui
au game 2 encore.
Et donc, par rapport à la phrase que tu disais, c'est en sortie de game 1, tu avais de l'inquiétude pour Détroit?
Oui, et d'ailleurs, mes inquiétudes ne sont pas levées, puisque on va rentrer dans le détail de ce Game 2, mais concrètement, ce Game 2, la défense d'Orlando a encore une fois bien fonctionné.
Après un mi-temps, super.
Et même le match. Genre, Pistons, ça shoot compliqué, il n'y a pas tant de shoot ouvert que ça.
Ils prennent un blitz dans le troisième quart, mais ça va.
Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un blitz très impressionnant, un gros, gros run des Pistons en sortie. Je crois qu'il y a 11-0 en sortie de vestiaire. Et après, je crois qu'à un moment, on est à 22 à 3. Ouais. Le match, il est terminé. Il reste 4 minutes dans le troisième quart limite.
Oui. Victoire des Pistons, hein, pour ceux
victoire
qui
des
pas,
Pistons, c'est... effectivement, pour revenir à partout. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont encore mis moins de 100 points.
Oui,
les Pistons. Là, au match 1, ils avaient mis 101. Et déjà, on avait dit la défense d'Orlando a bien marché. Là, ils en mettent que 98. Donc, et les pourcentages de Détroit, vas-y, fais voir les pourcentages globaux de Détroit.
Alors, 46% au tir, ça va, mais 23%
de
loin. Et
14 sur 24 au lancer.
Et 58% au lancer.
C'est pareil, ça, putain.
Ah bah,
Bon, il le gagne de 15, alors on va pas trop en faire état.
Non, mais bien sûr.
Mais c'est quoi si c'est un match serré?
Et ça commence par le patron, hein. Cade, il est à 4 sur 8 au lancer. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde, hein, qui est dans de la maladresse. Oh. Hormis, Javonte Green, un petit Isaiah Stewart et Tobias Harris. Mais c'est vrai que.
Combien de pertes de balles ils ont, Détroit? Excuse-moi, Bastien, je
22 pertes de balles.
Voilà!
Non, mais. Détroit, de toute façon, c'est comme ça aussi qu'on voulait angler la vidéo, on en parlait tous les deux, c'est que au bout de deux matchs, le numéro 1 de l'Est n'est pas rassurant.
Non. Et ni contre le Magic, ni pour la suite, évidemment. Mais pour l'instant, la suite, tu sais quoi? On ne va pas se lancer sur la suite. Il y a deux matchs à jouer à Orlando.
Voilà. Qui va être dans une ambiance, à mon avis, parce qu'ils sentent qu'il y a la place.
Et il y a un garçon qu'on a pas mal critiqué, qu'on aime bien avec Bastien, mais qu'on a été, on a été obligé de le critiquer, même si on l'aime bien, parce qu'il ne fait pas une si bonne saison que ça, c'est Paolo Banchero. Premier match, vraiment bien,
très
Paolo
bien.
Banchero. Deuxième match, c'est lui qui surnage. C'est le seul qui surnage un peu, je trouve.
Suggs fait encore un bon
match.
Suggs,
moi, ce qui m'énerve, après, c'est son jeu. Hein. C'est un peu comme Dylan Brooks, je sais pas, on va probablement pas débriefer
Smart.
Tout de suite. Le ou Smart et tout. C'est des mecs, genre, ils croient qu'ils sont ce qu'ils sont pas, en fait. Genre, Jalen Suggs n'est pas Steph Curry.
Non.
Voilà. Désolé, mon poteau.
Ouais.
Et puis, attends, t'as vu les tirs à 3 points qu'il prend. C'est pas comme si il avait 10 tirs ouverts à 3 points dans le corner grâce à des bons systèmes. Le mec prend des pull-up avec la main d'Ossar Thompson ou de je ne sais quel gars devant les yeux.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais Jalen Suggs peut rentrer là-dessus, là où je lui en veux pas.
Mais il se bat.
Un, c'est qu'il se bat. Deux, c'est que s'il était dans une attaque extrêmement léchée, avec une répartition formidable des tickets de shoot et que tout le monde savait ce qu'il devait faire, je dirais, frérot, tu abuses. C'est ce qui faisait que parfois, Dion Brooks, on se disait, oh, casse pas la dynamique, on sait à qui doit être le ballon. Sauf que là, le problème, c'est que quand Orlando se retrouve dans une soirée où offensivement pour eux, ça devient difficile, moi, je me dis que le mec veuille un petit peu plus prendre. Je suis d'accord, les shoots sont compliqués et c'est le jeu de Jalen Suggs. C'est que si ça se trouve, là, au Game 3 et 4, on va avoir une version extraordinaire All-NBA Team de sa part et puis la version Marcus Smart de Washington. No disrespect, hein. Mais c'est vrai que pour rester sur Détroit, sur les deux premiers matchs, tu disais attention, on va même pas se projeter sur la suite. C'est vrai que là, défensivement, j'ai vu du mieux, là évidemment, sur ce match 2.
Ouais.
Ils maintiennent Orlando à 83 points. Ils ont été extrêmement bons sur cette deuxième mi-temps en sachant quoi faire pour essayer de rendre la vie infernale à Orlando. Mais en attaque.
Ils maîtrisent bien Wagner.
Ils maîtrisent bien Wagner, mais en attaque, ouais. Détroit. Tout ce qui a été pointé sur les Pistons avant que les playoffs démarrent
est là.
Se valide
est
dès
là.
Les deux premiers matchs.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est inquiétant pour la suite.
Je voulais dire que c'est un match, on est content, ils ont retrouvé leur défense.
Ouais.
Bickerstaff a ajusté des choses. Y a des joueurs comme par exemple Tobias Harris qui fait un vrai bon match carré de playoffs. Il y a Duren qui a haussé le ton défensivement.
Oui.
Isaiah Stewart, moi j'ai vraiment préféré son deuxième match parce que vraiment le premier match était compliqué.
Oui.
Ossar Thompson, un peu mieux utilisé par Bickerstaff. Moi je pense même qu'il pourrait l'utiliser encore plus. Après, je comprends le dilemme parce que c'est vrai que du coup en attaque, Orlando, quand il y a Ossar Thompson sur le terrain, il le laisse.
Oui.
Mais c'est un manque de respect de fou, mais bon, en même temps, voilà.
Le birthday boy Duncan Robinson, il met 3 bons tirs à 3 points. Enfin, c'est important.
Heureusement qu'il est là, lui,
hein.
Pour mettre du spacing et des tirs à 3 points. Mais je veux dire, les Javonte Green et tout. Javonte Green a fait des des bonnes entrées défensivement, voilà, Détroit défensivement, c'est resserré. Ils ont bon, Desmond Bane n'est pas dedans, heureusement pour Détroit, parce qu'il a des tirs ouverts. Desmond Bane il met rien dedans, donc bon, tant mieux hein, pour Détroit hein. Mais il laisse Suggs faire son petit numéro, ils essayent de couper au maximum Paolo Banchero du ballon, parce que dès que Paolo Banchero a le ballon, même si Tobias Harris ou Oscar Thompson ou des gars sont capables de faire du bon taf, Paolo Banchero c'est le seul joueur du Magic sur ce début de série qui arrive à créer des vrais trucs, à faire des différences, créer des décalages. Alors après ça rentre pas toujours les shoots et tout, mais il y arrive, ouais. Ok. Là où Wagner, j'ai bien aimé le taf défensif moi de Wagner. Par contre, j'avoue en attaque Wagner aussi là,
c'est dur.
Oh c'est dur là. Par contre, j'ai bien aimé. Je trouve qu'en défense, il a été assez sérieux. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un match à low scoring. On se croirait au début des années 2000 là.
Dernier, hein. C'est magnifique.
Avec un spacing vraiment genre vite fait, ouais. Très vite fait.
Non non mais c'est une bataille 100% conférence Est.
Vache.
Et c'est vrai que je n'ai pas là.
Tu cherches quoi?
Je voulais juste questionner un petit peu avec toi et avec les fans d'Orlando et de Détroit. 8 cartons se sont joués en 2 matchs.
Oui.
Détroit a été exceptionnel sur le Q3 du Game 2.
Là, ouais, ils ont fait un. Vraiment, c'est ça. C'est ça, c'est là on a trouvé le Détroit dominant.
On a trouvé
dominant.
Le Détroit, ouais, dominant qu'on attend.
Ouais.
Sur les 7 autres, c'est difficile d'en ressortir d'autres sur lesquels Détroit est vraiment un cran au-dessus d'Orlando, je trouve.
Il n'y en a pas.
Et c'est ça ma question en fait, c'est que sur 8 cartons, s'il y en a vraiment un qui t'a permis de décrocher, attention à la suite parce que tu vas aller à Orlando. Moi je trouve que ce sujet de secondary playmaking et d'attaque derrière Kate Cunningham, là ça devient vraiment un énorme gyrophare en plein milieu de la nuit. Là,
oui.
Là c'est très très dur, je trouve, face à une défense d'Orlando qui est forte.
Intelligente.
Qui est intelligente, mais... par rapport au cadre supérieur, on va les attendre loin. Détroit vise quand même plutôt fin mai que fin avril. Attention, il y a des défenses en face, ça va être très chaud.
En fait, ce qui m'embête un peu, et après Détroit a encore toute cette série pour y travailler, en espérant pour eux qu'ils la passent et qu'ils puissent aller défendre leur statut de numéro 1 de conf dans une demi-finale.
Ouais.
Mais là, ce qui m'embête, c'est que je suis d'accord avec toi, mais il y a un problème de playmaking derrière, à côté de Cade, vous dites comme vous voulez, mais en gros, voilà, il y a un sujet là-dessus. Mais on le connaît le sujet. Et Détroit a vécu avec ce sujet toute la saison.
Ouais.
Et ça ne les a pas empêchés de gagner 60 matchs.
60 matchs, voilà. Bien sûr, troisième meilleur bilan de la NBA.
Donc, bon.
Numéro 1 à l'Est.
Non, je cherchais le chiffre exact. 61, non ? Je sais plus.
60-22.
Ouais. 60 tourons. Ça ne les a pas empêchés. Ils ont trouvé des solutions et tout. Des solutions qui sont venues de leur dureté de jeu et de leur application défensive. Et donc là, sur ce Game 2, ils ont retrouvé leur grand principe. Quand ils font leur run dans le troisième quart, Cade est en feu, Durant trouve des bons cuts,
hein.
Et tout, c'est collectif, mais c'est surtout des interceptions, wow. Le rebond est verrouillé, on a un peu de place pour jouer.
Detroit basketball.
Voilà. Donc Detroit basketball. Et là où je veux bien voir déjà la suite de cette série, c'est que je suis curieux, et on verra à Orlando, mais qu'est-ce qui se passe dans ce type de match où... Moi, j'ai une sensation dans ce type de match, c'est bien, je suis content pour Détroit, ça a bien défendu et tout, mais j'ai une sensation que, je sais pas comment dire, genre, ouais, ils ont bien durci, Orlando a fait des erreurs et tout, mais Orlando, même si c'est pas une équipe de shooting, Orlando va rarement moins bien shooter que là sur ce Game 2 quand même. Desmond Bane, il est affreux.
Ils sont capables.
Ils sont capables, mais
ils sont à 30,
c'est vraiment très compliqué, et 25% de loin.
Et 72 au lancer.
On sait que Bane, par exemple, est capable. On espère pour lui qu'il récupère un peu de santé. Bane est capable d'avoir des matchs très propres et comment dire, prolifiques et propres au tir.
Bien sûr.
On voit bien que face à Banchero, Banchero arrive à faire des différences. Donc ils ont deux gros arguments offensifs, dont un qu'on n'a pas encore vu, c'est Bane. Après, Franz Wagner, je le trouve vraiment très bien pris.
Oui.
Il est très bien pris. Oscar Thompson, c'est un problème pour Franz Wagner.
Oui, bien sûr.
C'est un problème pour beaucoup de gens. Mais pour Franz Wagner, c'est un problème.
C'est un top 5 défenseur cette saison.
C'est vraiment le physique parfait pour faire chier Wagner. Quoi. Voilà. Pour Banchero, il est un poil petit, un peu léger.
Ouais.
Oscar.
Mais pour Franz, c'est parfait.
Mais pour Franz, Donc voilà. Et Franz essaye de se défendre de l'autre côté du terrain. Donc il y a. Ce que je veux dire, c'est que face à une attaque qui est vraiment pas ouf, hein, et je suis poli, celle d'Orlando. Ils ont réussi un Game 2 intéressant. Ils avaient raté leur Game 1. J'attends la suite de la série. Détroit a besoin de créer des guerres de tranchées en imposant leur jeu dur, leur jeu défensif. Et là, contre Orlando, déjà, ils ont réussi un match sur deux. Et comme tu le disais très justement, Bastien, ils n'ont réussi qu'un carton sur huit.
Donc attention en déplacement. Hein.
et en déplacement. Et attention, parce que les autres énervés là qui les attendent en demi de conf, c'est pas fini la série Cavs Warriors, Cavs Raptors, pardon, excusez-moi, c'est pas du tout fini. Les Raptors sont dans la merde, les Cavs, mais là attention.
Mais c'est à un autre niveau.
Parce que là, quand tu joues des attaquants élites comme ceux des Knicks ou ceux des Celtics ou ceux des Cavs, t'auras beau défendre le plomb de ouf et casser le rythme et tout, tu vas prendre plus que 98 points.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Non, tu vas être obligé de jouer des matchs dans les 105.
C'est ça.
Dans les 108, 110, j'en sais rien moi. Et là,
des 3 en attaque ne rassurent pas.
Ah non.
Du
non.
tout. Et il y a eu...
Et en défense, ils rassurent un peu, mais face à une attaque pas terrible. C'est ça
c'est
que
ça.
Je voulais dire.
Côté Orlando, oui. Il y a... Un élément moi, dont je voulais parler avec toi, c'est qu'on avait parlé dans la preview, on avait fait le point tactico-technique et je discutais avec toi notamment de cette agressivité attendue côté Orlando Magic. Ce qu'ils ont fait notamment sur le Game 1 en étant plus agressif. Pour autant, c'est Détroit, si je dis pas de conneries, qui avait eu bien plus de lancers provoqués, notamment pour essayer de grappiller des points parce qu'ils ont voulu essayer de tenir face à une efficacité pour les Jalen Suggs, Paolo Banchero et compagnie. C'était vraiment leur soir pour le coup. Là, sur le Game 2, on a beaucoup de lancers qui ont été provoqués par le Magic. 32, ils en mettent que 23. Et très très peu, ou en tout cas moins, par les Pistons, qui sont à 14 sur 24. Si tu es Orlando, comment est-ce que tu observes ces deux matchs et tu abordes la suite? Parce que sur l'agressivité, je les ai trouvés très bons sur le Game 1. Et un peu, on se fait rentrer dedans là, sur la deuxième mi-temps et sur le troisième quart-temps. Comment tu vois, est-ce que tu abordes ça? Parce que pour le coup, quand ça va pas au tir, ils ont fait le travail nécessaire d'aller provoquer des lancers et des fautes sur
d'aller chercher des lancers. Là, ils ont vraiment, je te dis, au premier match, ils ont quand même réussi, même si à 3 points, c'est une équipe quand même qui est souvent dans le mal. Au premier match, ils ont réussi à trouver un peu plus de tirs propres, de plus près. Ils ont 49% au tir au premier match. Ça reste quand même un tout à fait bon pourcentage.
Orlando qui met 10 tirs à 3 points, c'est un season high. Hein,
et Orlando qui met 10 tirs à 3 points en prenant 34, t'es à 29%, le pourcentage est pas terrible, mais t'as 10 tirs à 3 points. Donc dans l'agressivité, je suis d'accord avec toi, ils se sont fait déborder dans le troisième quart. Ils se sont fait déborder parce que Cade a fait plusieurs actions de Cade Cunningham, c'est-à-dire des actions où c'est bien défendu et tout, mais l'autre prend le fade away in de fond, après il va chercher un N1 de fou malade avec la planche,
le
et tout
out sur Paolo, là, okay.
Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a des interceptions, il y a Osar Thompson qui est dans la tête de Wagner, il y a le rebond qui est verrouillé, et là tu prends un jus, il y a la salle des Pistons qui est en feu et tout, et tu prends un jus, et comme t'es le Orlando Magic et que t'es pas dans un niveau de confiance de malade, t'as des passes ratées, t'as Jalen Suggs qui dit bougez pas les gars, je vais step back à 3 points et tu te retournes.
C'est la clé.
Tu te retournes et t'as pris un run de 22 à 3. Voilà.
Pour battre Orlando, il faut mettre une brindille dans la roue et normalement la roue elle
casse. Une brindille dans la roue et après tu ouvres Jalen Suggs et tu verrouilles Wagner et tu fais chier le plus possible Banchero et ils ont tout de suite, ils ont quasiment plus d'options. Surtout, je le répète, dans ces soirs-là où Bane met pas un pied devant l'autre et c'est compliqué. J'espère qu'il va récupérer la santé et tout. À Orlando, le Magic, là, a deux matchs à la maison. Objectif du Magic, faire douter les Pistons. Parce que l'objectif des Pistons, c'est de faire douter le Magic. Mais le Magic a montré au Game 1 qu'il pouvait faire douter les Pistons. Oui. Leur rentrer un peu dans la tête, leur montrer genre, ok, vous voulez jouer dur, mais en fait, nous, on est grand, on est costaud, on est jeune.
Et on
nous aussi, on a des gros muscles et nous aussi, on a les têtes de con dans l'équipe.
Hein, bien sûr.
Dans le genre tête de con, Goga Bitadze, Banchero, Bane et tout. Si, il y a les Pistons. Isaiah Stewart, Osar Thompson, Jalen Duren et tout. Il y a ce qu'il faut.
Orlando, c'est...
Mais voilà, donc Orlando sur ce terrain-là peut. Et donc Orlando à la maison, match 3, objectif extrêmement simple, préparer au mieux le duo Bane-Banchero, travailler autour de Wagner en lui disant s'il continue à t'envoyer beaucoup de Osar Thompson en premier rideau, en gros parce que Wagner c'est un mec, il aime bien balle en main et tout, va peut-être falloir que Wagner joue plus sans ballon pour écarter Osar Thompson du ballon. Oui. À voir s'il le. Parce qu'ils le mettent un peu aussi sur Banchero. Enfin, tu vois, Osar Thompson est quand même un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Qui est vraiment meilleur en défense extérieure qu'Osar Thompson? Même à OKC, il peut être titulaire, Osar Thompson, défensivement parlant. Tu vois, genre, il rigole pas. Donc, il y a des choses un petit peu tactiques à mettre en place en attaque côté Orlando. Mais surtout, ils doivent se dire ok, non. Nous aussi, on peut défendre comme des gros chiens de la casse. Et nous aussi, on peut prendre tous les rebonds. Et genre. Peut-être varier. Ils ont été capables. Ils ont essayé dans le match 1 et 2. C'est pas toujours très concluant parce que Cade Cunningham est extraordinaire. Mais varier les couvertures sur Cade. Mm-hmm. Un coup tu drop, un coup tu viens le serrer, un coup t'es à deux, un coup ceci, un coup cela. Continuez, on sait jamais. Si Cade déraille un tout petit peu en attaque sur un match, les Pistons sont tout de suite en danger. Hein. Pour l'instant, Cade, il a été énorme.
Oui.
Pour l'instant, même dans la défaite au Game 1, il met genre
39.
Voilà.
Ah non, mais 39, bien sûr.
Un pourcentage là, hein. Douteux, mais quand même, il non, est là.
Il répond présent, tout à fait.
Et au deuxième match, il est exceptionnel.
Bah, c'est ce qui fait que pour le moment, Jaylen Duren ne démarre pas vraiment bien sa série. Hein, ça, il faut le dire. Hein, pour un joueur qui fait partie des candidats Most Improved Player, qui était une machine à double-double, on prend le combiné des deux matchs entre lui et Wendell Carter Jr. Alors, Wendell Carter, là, sur le Game 2, j'ai pas envie d'en parler parce que je préfère parler de basketball.
Compliqué.
Mais si tu combines les deux, déjà, il y a match. Ce qui ne devrait pas être le cas. Entre Wendell Carter, ou en tout cas le secteur intérieur. C'est-à-dire que là, vraiment, avec Isaiah Stewart, ça a été très très bien hier soir. Mais normalement, la paire Duren-Stewart doit fracasser dans sa production et dans son importance la paire Wendell Carter-Gogabitadze. Sur le papier, c'est un des tout meilleurs remplaçants avec un All-Star versus Wendell Carter et Gogabitadze. Ils doivent être meilleurs. Donc par rapport à ton scénario de Cade qui va pas bien, attention, si ça arrive, il faut que Jaylen Duren aussi trouve sa place dans cette série.
Après, ils ont l'aide de Banchero. Wendell Carter et Vitadze. Banchero qui, on le rappelle, peut jouer sans problème petit pivot vu comment il est grand, costaud, fort au rebond et tout ce que tu veux, même oui. Si défensivement c'est pas toujours mais qui fait quand même des efforts honnêtes en tout cas sur les deux premiers matchs hein, par rapport à ce qu'on a pu voir parfois, et qui amène un peu de rebond. Tobias Harris, en fait le truc c'est que c'est plus un combat poste 4-5
oui.
Contre poste 4-5 qu'un combat vraiment poste 5 contre poste 5 dans le
bien
sens
sûr, mais...
où je trouve ça très intéressant. C'est un peu à la décharge de Duren ce que je vais dire, même si je suis pas du tout satisfait de ce qu'il propose, mais en fait il est ciblé par la défense et c'est assez intelligent de la part d'Orlando.
Et je
Orlando
d'accord.
Veut pas trop que Duren soit à l'aise en attaque quoi.
Et je suis d'accord,
ils ont bien identifié le truc,
mais les progrès de ce garçon et la façon dont on fonctionne en playoff, Alex, fait qu'on doit aussi dire,
Jaylen
Duren, les playoffs ont démarré. Et il va avoir besoin de toi. Parce
il n'était pas prêt. Hein.
Il n'était pas prêt.
Il n'était pas assez bien préparé.
Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, bon, le groupe n'écoute pas tous les jours Jamal Mosley. On est d'accord. Ça, on le sait. Je pense qu'ils ne vont pas tous partir en vacances tous ensemble avec une Reza pour 15. Par contre, s'il y a un truc que Mosley peut dire là, et je ne m'y attendais pas au bout de deux matchs, c'est les gars, si nous, on joue comme on a fait sur les deux premiers matchs, mais qu'on met 105 points,
on a gagné.
Je vous jure qu'on a de très bonnes chances de gagner.
Ouais.
Je te demande pas 113, hein. Je te demande pas 116.
Même 102, 100, passer la barre des 100.
Passer la barre des 100.
Tu peux gagner. Après, attention, ils n'en mettent que 83 au match 2, parce que la défense des Pistons
oui,
est un vrai problème pour leur attaque.
Mais donc, Desmond, Franz
Desmond,
et compagnie, etc.
Surtout Desmond.
Si vous y êtes, les gars, on peut vraiment mettre la centaine de points. Et vu que ça va être plutôt une série tranchée que des grands 125-122, ou alors à ce moment-là, formidable. Hein. Mais
on en
je
doute,
crois pas trop.
On en doute.
Eh ben, il y a des vraies chances pour Orlando. Quand on se projette là sur les deux prochains matchs, certains joueurs l'ont annoncé là qu'il y allait avoir grosse ambiance là à Orlando. Et je pense qu'en effet, les fans vont se montrer nombreux et vont vouloir essayer de chatouiller un peu les Pistons. Tu vois le truc comment ? On revient à 2-2 à Détroit, on revient à 3-1 pour Orlando, on revient à 3-1 Pistons parce que le Magic fait sa spéciale, on a reporté le Game 1 et en fait c'était que du Zef.
Je dirais 2-2. Je dirais 2-2. En fait, les deux équipes, le Magic, on n'était pas serein avant d'arriver en playoff.
Toi, t'avais dit 4-2 Pistons, je crois, sur la série.
Peut-être même 4-3, je crois. Non.
Ah oui, t'as peut-être dit 4-3, pardon. Oui, vas-y, finis-toi.
Je crois que j'ai dit 4-3.
Qu'est-ce que t'allais dire, pardon,
justement. Enfin, moi, j'avoue que le Magic me rassurait pas, mais comme j'en ai un peu parlé dans la preview, malheureusement pour les Pistons, je pense vraiment que les Hornets, c'était un meilleur tirage pour eux. Là, le Magic, avec leurs extérieurs tout musculeux, leurs ailiers grands, hyper, hyper costauds qui peuvent venir se battre au rebond, leurs espèces de gars dans la raquette qui se brossent les dents avec des troncs d'arbres et tout. Mm-hmm. Tu vois, genre, ils ont pas peur du combat. Au limite, ça les arrange, en fait, de... C'est qui le... Toi, genre, voilà, quoi, tu vois. Ça les arrange.
T'es quoi
en fait. Ouais, ça les arrange de fou. Et les limitations offensives des Pistons... Les Pistons sont quand même, à mon avis, clairement une meilleure attaque de base que le Magic. Hein. Rien que Cade Cunningham, ça met quand même une bonne vitesse à un paquet de mecs du Magic, tu vois. Mais l'écart n'est pas si fou et ça arrange le Magic. Et le Magic a montré au Game 1 qu'ils étaient capables, les soirs où ça rentre, eux, de faire des efforts défensifs. Ils l'ont montré au Game 1 et au Game 2 d'ailleurs. Ils ont les efforts défensifs et ils ont les armes pour emmener les Pistons autour de 100 points. Donc en gros, c'est là à la maison, t'as raison, Mosley, il peut dire à ses gars, genre, les gars, on est complètement dans cette série. Et si nous, on passe la barre des 100 points, on est tout de suite en position de gagner. Parce que défensivement, on sait ce qu'on a à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Hein. Il y a Cade, il va scorer. Par contre, Duncan Robinson, on ne veut pas qu'il soit trop ouvert. Jalen Duren, on ne veut pas qu'il ait trop d'espace, là, comme il aime bien, autour de la ligne de lancer franc, en short roll, ça c'est mort, ça. Donc Banchero, tu fais les efforts. Wagner, tu fais les efforts. Vous venez rouler et tout, machin. Et ils ont plusieurs solutions, donc ils vont miser, à mon avis, sur ambiance, détermination, le public, quelques shoots de Ben qui tombent dedans. Et là, si les Pistons n'ont pas les nerfs assez solides pour bien se regrouper, comme on dit en états-unien, défensivement, tout de suite, on va être dans des matchs serrés. Et les matchs serrés, bah, on va voir qui les gagne. Hein.
C'est coin flip.
Là, on a deux équipes. L'exécution de fin de match, si allez, on va dire que Cade Cunningham a un avantage quand même offensivement. Cade, il a quelque chose. Mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, Cade, il peut se faire doubler et il lâche le ballon à qui du coup Il lâche le ballon à Tobias Harris.
Et peut-être qu'en effet, à ce moment-là, il y aura des gars qui vont devenir des héros un peu inattendus. Mais c'est vrai que c'est pas. En tout cas, t'es pas en assurance. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que ça.
Donc, moi, 2-2, je dis, pour répondre à ta question.
Eh ben,
2-2 quand ça revient à Détroit.
Je un suis chacun. Aligné. J'avais dit 4-1 Pistons.
Tu sais que il est encore possible mathématiquement, mais ouais, en termes de physionomie.
Enfin, on passe un autre apéro au bout de deux matchs, hein, je te le dis.
S'il y a 4-1 Pistons, je pense que. Bravo. Ouais, bravo. Franchement, on va leur dire.
Un autre
bien.
Apéro.
Ouais.
J'allais dire, tu sais, quand je t'entendais là, évoquer tout ça, là, ça me fait penser à une autre série où il y a des incertitudes offensives face à une équipe qui est censée être meilleure dans sa dynamique parce qu'ils ont plus de joueurs présents. Mais parce qu'on crée le chaos défensif et qu'on est bien sur notre plan de jeu, on est capable, si on a des bons coups de chaud de certains joueurs, de l'emporter. C'est les Lakers face aux Rockets.
Ah putain, je cherchais la série, d'accord. Ok.
Pour une raison qui est simple, on en a parlé dans la preview, vous en avez parlé tous les deux avec Simon, c'est que la façon dont les Lakers aussi sont en train d'assurer leur début de série, c'est qu'ils sont en train fort de faire déjouer offensivement les Rockets et que derrière en attaque... Breaking news, ils n'ont pas LeBron au sein de l'effectif.
Quand même, putain.
Non, mais bien sûr. Mais ils
j'aime
ont
bien
aussi...
Banchero. Hein,
mais bien sûr. Mais côté Lakers,
je
c'est un ensemble.
Je prends quand même LeBron 41 ans.
Oui, bah, je te confirme aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les fans Lakers le savent bien. C'est aussi ce qui se passe avec Luke Kennard, Marcus Smart notamment, et d'autres apports de joueurs qui ont confiance hein, là au shoot. Hein. Luke Kennard, je veux dire, il peut shooter.
Luke Kennard, c'est un sniper. C'est surtout Marcus Smart.
Marcus et Marcus Smart, voilà. Voilà. Et donc, c'est ça aussi que j'aimerais dire du côté d'Orlando, c'est que les gars, s'il y a un ou deux coups de chaud, on est tout à fait en capacité de repartir de la maison à 3-1. Et donc, c'est le parallèle que je voulais faire, c'est que vraiment, pour le coup, quand tu vois les Lakers faire déjouer offensivement là ce qui se passe côté Rockets, il y a, je trouve, ce sentiment d'Orlando qui arrive à faire déjouer Détroit offensivement. Ils sont vraiment bons, hein, là, défensivement, ce qu'ils font Orlando pour vraiment
c'est bien, hein.
faire casser la machine. Et donc... il faut se libérer un peu plus. Et donc, dans mon pronostic et dans ma projection là, c'est que j'aimerais que Orlando appuie sur la transition fort sur le match là. Quand t'es à la maison, t'as plus de collants en ta faveur, t'as des bœufs qui vont mettre la tête la première dans la raquette. On y va. On va créer des secondes
chances. C'est quoi là? Ils ont essayé. Hein. Le problème qu'ils ont, c'est que là, vraiment, ils ont un sujet autour de Desmond Bane et de Wagner
oui
qui, pour l'instant, sont vraiment. Ils sont censés faire partie des fers de lance offensifs et
oui.
du rythme
oui.
et là ils y sont pas
et donc à la maison, il faut le faire
voilà
là encore plus parce que parfois les calls sont un petit peu différents ou que tu as une énergie supplémentaire parce que tu as 20 000 personnes qui te soutiennent. Donc j'attends un game 3 très fort du Magic en percussion et peut-être donc mener 2-1 dans la série et avoir un énorme game 4. Si je dis pas de bêtises, Alex, nous le game 3 on va le vivre à Bordeaux.
Oui. Oui.
Eh ben, tu sais que celui-là...
C'est vrai qu'on a le Game 3 samedi.
Tu sais que celui-là, il va valoir son pesant de cacahuètes. Je crois qu'il est à 19h. Je vais regarder.
Il
hein.
est à 19h puisqu'à 21h30, on a Suns Thunder.
C'est ça. Hein. Eh ben, tu sais qu'au tout début des playoffs, on se disait « on va voir et tout
oh, ».
Eh ben,
c'est un vrai
eh ben, il va avoir... C'est ça. Samedi, 19h. Et le Game 4, ce sera lundi, dans la nuit de lundi à mardi à 2h du mat.
Ouais. Et bah... on n'a pas encore l'horaire du Game 5, mais il y aura un Game 5 déjà, ça c'est sûr.
Oui, ça c'est sûr. Ce sera
et, ouais. et on aura ouais, Suns Thunder match 3 également. Bon, Suns Thunder on va pas faire pour l'instant il n'y a pas de débrief vraiment à faire. Enfin, je peux vous faire le débrief hein. Le Thunder est plus fort et ça fait un peu chier pour eux de voir que Jalen Williams s'est probablement refait mal à,
ouais, là,
à l'aine, ischio, enfin aux ischios.
Ouais, là, c'est chaud.
Putain.
Il y en a peut-être pour plusieurs semaines. Hein. On va voir hein, les infos.
Là, déjà, sa série est finie.
Ouais, ouais.
Puis ça c'est moche. Bon, ouais. Ça, la série finie contre Phoenix, je pense que le Thunder, il regarde, il fait bon. C'est quoi ? Comment il va, Ron Wiggins ?
Isaiah Joe,
genre, voilà. Ça, bon, ça
Caruso.
Va aller. Malheureusement pour les petits Suns, ça va aller. Mais par contre, pour la suite, c'est relou.
Pour la suite, c'est relou. Pour autant, pareil, les copains bordelais et bordelaises qui sont là. Game 3, moi, j'attends très fort parce que 1 à Phoenix et 2-2, test micro. Dion Brooks, Devin Booker, Jordan Haute sur l'arbitrage là des deux premiers matchs et donc de ce qui s'est passé. Stratégiquement. Pas mal, parce que quand tu retournes à la maison, je pense qu'il va avoir un autre type de coup de sifflet par rapport à ces deux premiers Suns Thunder.
J'espère. J'espère bien qu'ils vont avoir des home calls.
Et on l'aura à 21h30 ce samedi.
Des home calls.
Ouais.
De toute façon, avec sinon, Alex, il sort pas de l'Arizona, l'arbitre.
Avec Alex en roue libre à Bordeaux, puisqu'il sera à 21h30
bien
le match.
Bien sûr, enfin en roue libre. J'espère que ça sera pas un trop gros blowout, surtout. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux équipes, on va pas se mentir.
Ah, je crois que tu disais blowout des Suns.
Ah non. Enfin, moi je veux bien.
Je
hein,
leur souhaite.
Mais ils ont pas pris beaucoup de blowout cette année, le Thunder. Hein.
Ah non, ça reste compétitif. Dites-nous, fans des Pistons et fans du Magic, comment vous voyez la suite. Match immanquable ce samedi pour le deuxième week-end des playoffs avec donc des matchs, 4 matchs, dont 2 à horaire français le samedi, 4 ouais, pareil le ouais, dimanche. Ouais. On suivra évidemment notamment les infos sur Victor pour voir s'il jouera ce dimanche du côté de Portland.
Au match 4 ?
Ouais.
Ouais, on va voir, on va suivre ça tout, de très très près. Déjà, on va voir cette nuit.
Tout à fait.
Hein, s'il joue ou pas, parce qu'il n'est pas, pas encore.
Ça joue
il
ce
est
soir
pas encore
ou c'est vendredi
out, hein. Non, c'est peut-être la nuit de.
Je dirais vendredi, mais je vais.
T'as peut-être raison. C'est peut-être pas cette nuit, c'est pas la nuit de jeudi à vendredi, c'est la nuit de vendredi à samedi.
Je dis du caca, je vais retrouver là, bouge pas.
Là, t'as un schedule là,
j'ai un schedule là qui doit être là.
C'est pas
voir.
C'est
samedi, c'est vendredi.
C'est la nuit de vendredi à samedi. On verra déjà s'il joue parce qu'il n'est pas non plus encore out hein,
non,
pour
non,
ce match
fait,
3.
Tout à fait.
Mais bon,
l'idée c'est de savoir
probabilité
si se
qu'il joue pas quand même.
Ouais, tout à fait.
Oh, il va y aller à Portland. Ah putain, s'il va pas à Portland. Pff, attention la série. Attention
ah,
à
bah,
l'ambiance
oui, je te
bizarre.
Confirme, attention la série.
Attention l'ambiance bizarre.
Allez, sur ce, on vous fait des gros bisous et on se retrouve très très vite.
Ciao tout le monde.
D'autres apéros.
Bonne
ciao.
Journée.